Europe 1. À la fin de l'Antiquité, dans l'est de la Méditerranée, quand on voulait complimenter une femme pour son intelligence, on lui disait qu'elle était sage comme Hypatie. À la fin du 4e siècle de notre ère, alors que l'Empire romain est en crise, Hypatie d'Alexandrie enseigne la philosophie à l'élite orientale. Qu'elle soit une femme ne semble pas avoir gêné ses élèves qui lui vouaient une admiration sans bornes. Mais Hypatie était détestée par la minorité chrétienne violente. Trop émancipée, trop proche des puissants, trop païenne aussi, elle est devenue la cible des fanatiques prêts à tout pour lui faire payer sa liberté. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Hypatie d'Alexandrie, une professeure de philosophie à abattre. Nous sommes à Alexandrie en 415 après Jésus-Christ. La philosophe Hypatie est une personnalité influente de la cité. Cette femme païenne et célibataire d'une cinquantaine d'années possède sa propre école de philosophie et murmure à l'oreille des hommes politiques. Le patriarche d'Alexandrie lui voue une haine mortelle. Dans ses prêches, il excite ses ouailles les plus fanatiques contre elle. La haine sans cesse attisée finit toujours par mener au crime. Hypatie a l'habitude de circuler seule en char dans la cité. Un jour, un groupe de fanatiques chrétiens la guette dans une venelle sombre et lui barre le passage. Les insultes fusent, la philosophe se sait piégée. Il est trop tard pour rebrousser chemin, des hommes derrière elle lui barrent le passage. Bientôt, Hypatie sent des mains l'agripper avec violence. On l'oblige à descendre de son char et on la traîne dans le Caïssarion, un ancien temple dédié aux empereurs romains reconverti en église. Dans ce lieu pourtant saint, Hypatie est entièrement dévêtue par les fanatiques. Elle est désormais nue, au milieu d'un groupe d'hommes qui la violentent. Ils veulent l'humilier, lui faire sentir qu'elle n'est qu'une faible femme, une pécheresse. La violence à l'encontre d'Hypatie se change petit à petit en transcriminel. Ses assaillants s'arment de tessons de verre et de poterie et se mettent à taillader son corps. Le sang gicle sur les fanatiques, ruisselle sur les carreaux de l'église. Mais ce n'est pas encore assez. Ils frappent plus fort et finissent par mettre le corps de la philosophe en pièces. Ils ont démembré Hypatie. Et pourtant, leur fureur n'est pas encore apaisée. Les fanatiques emportent les morceaux sanglants de la philosophe dans un quartier nommé Kinaron et les brûlent sur un bûcher improvisé. Hypatie n'est pas une martyre. C'est la victime impuissante d'une bande de fanatiques religieux. L'antique Alexandrie est le plus grand centre culturel et la troisième ville la plus peuplée du bassin méditerranéen. Des érudits étudient et enseignent au Mousseion, littéralement le temple des muses. Le Mousseion, c'est ce qu'on connaît sous le nom de bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande du monde antique. Cette célèbre bibliothèque de la cité portuaire regroupe la quasi-totalité des savoirs de l'époque. Théon, le père d'Hypatie, y est mathématicien et astronome. On ne sait rien de son épouse, mais on sait qu'il a eu une fille prénommée Hypatie. Celle-ci est née entre 355 et 370. Je sais, la fourchette est large, mais les sources sur Hypatie sont très parcellaires. Il va donc falloir nous contenter de cette information. Dans un monde réputé misogyne, Hypatie est décrite par ses contemporains comme une sorte d'idéal féminin. Elle est particulièrement belle et intelligente. Et son premier admirateur, c'est son père. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée à travers les très nombreux portraits que j'ai pu écrire. Derrière une femme émancipée, dans la majorité des cas, il y a souvent un super papa. Donc, notre Théon, grand intellectuel alexandrin, va offrir quelque chose de rare et précieux à sa fille. La possibilité de se former aux sciences et aux lettres. Il lui permet d'accéder à la paideia, c'est-à-dire l'éducation pour les Grecs de l'Antiquité. On pourrait la comparer aujourd'hui à nos meilleurs cursus universitaires. Si l'école n'a jamais été interdite aux filles dans l'Antiquité, on ne juge pas utile de les laisser s'adonner à de longues études. Un savoir encyclopédique est sans intérêt pour se marier, mettre au monde des enfants ou aider à tenir le commerce familial. Mais Hypatie est une surdouée. Elle excelle dans toutes les matières, si bien que son père la recrute comme assistante dès son adolescence. Mais l'élève dépasse bientôt le maître en mathématiques et en astronomie. Alors le père et la fille œuvrent ensemble à l'approfondissement des recherches du mathématicien Euclide, à qui l'on doit une bonne partie des mathématiques modernes, et ils travaillent sur une réédition augmentée de l'Almageste de Claude Ptolémée, un mathématicien du IIe siècle. Ce qui est fantastique, c'est qu'on peut encore voir des traces de leurs apports dans les manuscrits anciens, des annotations sur des documents millénaires conservés par miracle. Mais Hypatie n'est pas qu'une scientifique. Elle s'intéresse aussi à la philosophie néoplatonicienne, qui mêle à la fois une réflexion sur le monde et de l'ésotérisme. Ce sont des choses qui ne sont pas très claires pour nous aujourd'hui, faute de sources, mais à l'époque, c'est un savoir extrêmement pointu. Hypatie est donc une intellectuelle complète reconnue dans tous les domaines de la Paideia. Hypatie a été élevée pour être indépendante et ambitieuse. Elle ouvre sa propre académie dans les années 380. Évidemment, impossible d'évaluer son âge avec exactitude, mais elle a plus de 20 ans, sinon personne ne la prendrait au sérieux. Mais elle a probablement moins de 30 ans tout de même. Ce qui fait d'elle, dans tous les cas, une professeure très jeune. Les écoles du temps d'Hypatie n'ont rien à voir avec les nôtres. Il s'agit en général d'un professeur qui reçoit ses élèves dans un lieu public ou dans la maison d'un particulier. Les cours sont payants et réservés à une élite capable de se payer des études supérieures. Entendons-nous bien, Hypatie n'est pas une institutrice, ses élèves sont des adultes. Ils pourraient être pour nous l'équivalent d'universitaires et même des énarques, puisque beaucoup d'élèves de l'Alexandrine se préparent à une carrière de haut fonctionnaire ou de religieux. Certains sont même déjà en poste et viennent parfaire leur culture, comme une sorte de formation continue. Ça veut dire que ces élèves sont exclusivement des hommes. Et je peux vous dire que suivre les cours de cette érudite, ça fait très chic. Pour les gens de l'Antiquité, quand une femme atteint un très haut niveau de culture, elle est respectée à l'égal des hommes. Oui, ces femmes sont rares, mais elles existent. Bref, je vous disais que la professeure enseigne toutes les matières qu'elle maîtrise, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, etc., sous la forme de conférences suivies de débats. Certains élèves suivent un cursus complet dans une ou plusieurs disciplines. D'autres, attirés par un sujet ou de passage dans la ville, viennent à quelques conférences seulement. Les élèves d'Hypatie appartiennent donc à l'élite locale et internationale. L'érudite accueille sur ses bancs les chrétiens et les païens sans distinction. Ça prouve sa grande ouverture d'esprit dans un monde qui ne compte pas un athée. En cette fin de IVe siècle, les païens sont encore majoritaires. Mais le christianisme, qui concerne déjà presque la moitié de la population, séduit de plus en plus. Autrefois, cette religion attirait surtout les esclaves, les pauvres et les femmes, ceux qui avaient peu de place dans l'espace public. Depuis la conversion de l'empereur Constantin dans les années 330, les élites s'y mettent. Dans un siècle, les païens seront minoritaires et persécutés. Donc, je vous disais que ces élèves viennent d'horizons variés. Parmi eux, il y a Synésios, l'ambassadeur de Cyrénaïque, l'actuelle Libye, à Constantinople. Après son passage à l'école d'Hypatie, il a continué à lui écrire pendant des années pour lui demander des conseils politiques. C'est dire à quel point cette intellectuelle était une femme influente en Orient. Elle a aussi comme disciple un diacre, un membre du clergé chrétien. Selon certains historiens, il pourrait s'agir d'Isidore de Péluse qui jouira plus tard de l'estime de l'évêque Cyrille, futur patriarche d'Alexandrie. Le patriarche d'Alexandrie étant l'un des plus hauts dignitaires de l'Église orientale. Comme je vous le disais, les femmes enseignantes sont rarissimes. Le succès d'Hypatie est bien dû à sa légitimité, à son excellence et à sa volonté d'exister dans l'espace public en tant qu'intellectuelle. À Alexandrie, toute la bonne société admire cette femme hors du commun qui se promène seule en char, revêtue d'un tribon, un manteau court tissé d'une étoffe grossière portée d'ordinaire par les hommes. Cette situation est tout à fait extraordinaire pour l'époque, mais personne n'oserait empêcher Hypatie de le faire. Elle est trop émancipée, elle intimide tout le monde. Hypatie se perçoit comme l'égale des hommes, mais sa condition de femme lui impose cependant quelques sacrifices. Pour rester libre et indépendante, elle refuse de se marier. Ça implique de renoncer à toute vie sexuelle, car elle serait considérée comme une putain. Selon la légende, l'un de ses élèves serait tombé follement amoureux d'elle et lui aurait déclaré sa flamme. Sa réaction pourrait conduire le malheureux va vous surprendre. Hypatie aurait décidé de lui jouer de la lyre pour apaiser ses tourments, parce que la musique adoucit les mœurs, c'est bien connu. Mais ça n'a pas du tout marché. L'élève est tombé encore plus amoureux. Ben oui, Hypatie est belle, intelligente et en plus musicienne. Alors le disciple continue à lui faire des avances. Cette fois, Hypatie va utiliser la manière forte. Enfin, c'est pas un tour de force, hein. C'est une astuce, un truc qui souvent effraie les hommes. Pas tous, je sais, mais certains d'entre eux, et cet amoureux-là en particulier. Pour dégoûter son élève d'elle une bonne fois pour toutes, Hypatie lui agite sous le nez un chiffon avec du rouge dessus. Ça y est, vous commencez à comprendre ? Elle lui met sous le nez une protection périodique tachée de sang menstruel et elle lui aurait dit « Voilà ce dont tu es amoureux. Ce n'est pas très beau. » Et là, bingo ! L'amoureux voit ses nobles sentiments fondre comme neige au soleil. Il faut savoir que dans l'Antiquité, le sang des règles est perçu comme un liquide magique, malfaisant, dont les hommes doivent se garder. Les manuels de médecine poussent les hommes à ne pas coucher avec des femmes qui ont leurs règles, sauf pour guérir certaines fièvres, ce qui bien sûr est parfaitement inefficace. Bref, Hypatie serait donc restée vierge, entièrement comblée par la science, elle aurait dédaigné les joies de la chair. C'est une sorte de vierge sage très estimée par la classe politique d'Alexandrie qu'elle conseille en prônant le débat et le sens de la mesure. En revanche, Hypatie est très éloignée du démos, du petit peuple, comme le montre l'affaire du Sérapeion. Laissez-moi vous raconter de quoi il s'agit. Une partie de la population alexandrine, souvent de basse extraction, continue à honorer les dieux égyptiens et gréco-romains au sein de ce temple païen, le Sérapeion, où un prêtre convaincu d'être une sorte de médium lit l'avenir de ses ouailles. Ces pratiques ancestrales, perçues comme des superstitions diaboliques, dérangent beaucoup Théophile, le patriarche d'Alexandrie. Ce chrétien réputé intransigeant décide de fermer le temple en 391 après Jésus-Christ. Enfin, il décide ça tout seul dans son coin, hein, parce qu'il n'a pas le soutien du préfet d'Égypte, le gouverneur impérial, si vous voulez, qui est défavorable au coup d'éclat. Alors Théophile passe outre la volonté du préfet et envoie une bande de fanatiques s'en prendre au Sérapeion et à ses fidèles crédules. Mais ceux-ci n'ont pas l'intention de se laisser faire et la ville sombre dans le chaos pendant plusieurs jours. Il semblerait qu'Hypatie ne se prononce pas publiquement sur ces troubles. Son silence déçoit les païens. Mais le fait est qu'elle ne se sent pas concernée. L'ésotérisme qu'elle enseigne, probablement une sorte de science astrologique complexe basée sur le mouvement des planètes, n'a rien à voir avec les numéros de voyance à l'ancienne où le médium, comme possédé, annonce le futur à son client en des termes sibyllins. Hypatie appartient à l'élite. Adepte de l'excellence, elle goûte peu les superstitions populaires, même si elle est elle-même païenne. Sur ces entrefaites, le patriarche décède en 412. Son neveu Cyril est élu évêque et reprend sa charge. Son avènement est loin de faire l'unanimité. Cet homme est encore plus intransigeant que son oncle. Il rêve d'une église toute puissante où ce seraient les religieux qui guideraient les décisions des fonctionnaires impériaux. Dans ces années 410, Oreste, le préfet d'Alexandrie, le représentant de l'empereur dans la cité, est très proche de la philosophe dont il aurait été autrefois l'élève. Hypatie lui rend souvent visite et joue le rôle de conseillère auprès de lui. Comme à son habitude, elle défend l'idée de justice et se méfie de la passion, sentiment en part trop dévastateur contre lequel les philosophes luttent depuis des siècles. Or, le nouveau patriarche Cyril est un homme passionné et violent. Il voue une haine mortelle aux Juifs et pousse les fanatiques chrétiens adeptes de ses prêches à piller une synagogue. Évidemment, de telles exactions engendrent plusieurs jours d'émeute. Outré par le comportement de l'évêque, Oreste écrit à l'empereur pour dénoncer ses méfaits. Le patriarche se livre au même exercice de délation pour signaler le laxisme du préfet d'Égypte. Face à ces deux témoignages contradictoires, l'empereur Théodose II se garde d'intervenir. Il est lui-même chrétien, et il est même le premier empereur romain à prendre des mesures politiques contre les païens. Il a beau être intransigeant, Cyril lui donne souvent du fil à retordre, car c'est un pourfendeur des ennemis de l'Église. Toujours est-il qu'à Alexandrie, les tensions politico-religieuses s'accroissent. Les soutiens du patriarche forment un véritable parti politique adossé à une milice de fanatiques. Le préfet Oreste, au contraire, incarne une politique apaisante et tolérante en adéquation avec les valeurs prônées par Hypatie. Il entend protéger les Juifs, car ceux-ci contribuent largement au rayonnement culturel et économique d'Alexandrie. Et ça ne plaît pas. On accuse la philosophe de manipuler le préfet en usant de magie noire. La haine à son encontre monte au sein du peuple alors que les élites continuent à la respecter et à l'écouter. Son académie est toujours pleine et elle rend visite à tous les hommes puissants de la cité. Le patriarche Cyril finit par la désigner comme la cause de tous les maux d'Alexandrie. Elle est femme, érudite et influente. C'en est trop pour lui. Si seulement il pouvait la détruire. À défaut de pouvoir s'attaquer directement à Hypatie, l'homme d'église partage son ressentiment avec qui veut l'entendre. Ses mots gorgés de fiel rencontrent les oreilles attentives de Pierre le lecteur. L'homme appartient manifestement au bas clergé et peut-être au groupe des Parabolanes, une confrérie chrétienne en charge des soins aux malades et des enterrements. Le patriarche excite la haine de Pierre jusqu'à ce que celui-ci entraîne de son propre chef un groupe de parabolanes à la rencontre d'Hypatie. C'est là qu'il la démembre dans une église avec une violence inouïe. Toute la ville est horrifiée par la sauvagerie de cet assassinat. Les chrétiens modérés considèrent que Cyril a jeté l'opprobre sur l'église alexandrine et s'est déshonoré en poussant des fanatiques au meurtre. Sous le choc, Oreste écrit à nouveau à l'empereur, mais celui-ci ne réagit toujours pas. Il semblerait que Cyril, le pourfendeur des idolâtres, jouisse de protections haut placées. Pierre le lecteur et ses acolytes ne sont pas davantage inquiétés. Hypatie est morte, mais sa légende se cristallise. Aux yeux du monde antique, elle incarne plus que jamais la sagesse et le sens de l'éthique. Bien plus tard, au siècle des Lumières, Voltaire, désireux de faire d'elle une icône de la raison, la dira enseignante d'Homère et de Platon sans se soucier ni de la chronologie ni de la géographie. Hypatie est morte pour avoir été l'une des dernières gardiennes de la sagesse antique, un rempart contre l'obscurantisme religieux. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.